yo, la reina del mambo cantando el himno.
C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 27 janvier et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'infos locales et citoyennes sur Radio U. Aujourd'hui, sujet grave mais dont il faut absolument parler. Ces derniers jours, entre les hashtags sur l'inceste et les hashtags sur la détresse étudiante, on assiste à une prise de parole massive qui, on l'espère, va faire changer les choses. On commence avec la détresse étudiante, liée aux multiples confinements et couvre-feux et aux fermetures des facultés. On reçoit Esmeraldina Do Rosario, secrétaire générale de la FEDEB, en charge de la défense des droits, qui a participé à la manifestation mardi matin pour protester contre la manière dont les étudiants sont traités durant cette crise sanitaire. Je me demandais, c'est historique pour la FEDEB, cette prise de position dans une manifestation d'une telle envergure ?
Oui, tout à fait. Enfin, faut savoir que donc la FEDEB, c'est une fédération d'associations étudiantes, donc majoritairement de filières, mais aussi d'autres associations étudiantes sur le campus de l'UBO, donc Brest, Quimper, Morlaix, mais aussi Saint-Brieuc. Nous, on a pour habitude en fait d'agir surtout par du projet, donc à travers des projets d'innovation sociale, de culture et d'animation, tout ça. Et aussi par la représentation étudiante, donc pour que les associations puissent représenter au mieux leurs étudiants. Et en fait, ce qu'on remarque actuellement, c'est qu'on arrive à bout de ces types de mobilisations, que ce soit par le projet où on est dépassé par la situation. On a des limites en fait de ce qu'on peut agir, parce que nous-mêmes, on est des étudiants en difficulté. On n'a pas toujours tous les moyens à disposition pour agir. Et au sein de l'université, régulièrement, on nous dit que l'université ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que le niveau ne se passe plus au niveau local, mais bien au niveau national. Et c'est pourquoi on a décidé de partir en manifestation sur Brest et d'organiser des mobilisations sur Saint-Brieuc et sur Quimper pour faire notre dernier, on va dire, cri d'alarme et espérer être écoutés.
Et justement, là, à l'instant, vous parliez de vos différentes manières jusqu'à présent d'agir, donc à travers des projets, mais aussi des représentations d'étudiants. Là, depuis mars, donc ça va bientôt faire un an, quelles sont vos relations avec les élus locaux, avec le gouvernement de manière plus générale? Comment vous entrez en contact pour justement parler de cette détresse étudiante?
Nous, on agit plutôt sur le local. Donc on représente les étudiants bretons, mais plus généralement la jeunesse bretonne, à travers notamment, par exemple, des conseils d'information jeunesse, par exemple le CRIJ ou le CRAJEP, donc des organismes d'éducation populaire. Mais en soi, sur la politique en elle-même, nous on fait surtout de l'information aux étudiants. Par exemple, en organisant des débats pour que les étudiants puissent poser des questions et avoir les réponses en fait des élus locaux sur leur politique de jeunesse. Mais c'est vrai qu'au niveau national, on appartient, par exemple, on est adhérent à la FAGE. Et c'est plutôt donc la FAGE, à travers la démocratie participative, qui porte ensuite nos positions au national.
Oui, donc c'est à travers la participation à la FAGE que vous pouvez entrer en lien, on va dire, avec des personnes du gouvernement ou des personnes qui sont dans la politique.
Oui, tout à fait. Et même au sein de la FAGE, on voit les limites. Et c'est pour ça que aujourd'hui, donc le 26, à l'heure où on enregistre cette interview, donc le 26 janvier, c'est tout le réseau de la FAGE, que ce soit les fédérations de territoire ou les fédérations de filières qui ont fait un appel à la mobilisation. Et donc, il y a eu des mobilisations sur tout le territoire en France.
Et pour revenir sur le sujet de cette manifestation, De quoi souffrent principalement les étudiants pendant cette crise sanitaire? C'est quoi les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer?
Alors, je vais essayer de donner une liste sûrement non exhaustive, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a d'abord l'aspect financier. Donc, avec la perte de travail, notamment cet été, beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu travailler cet été et donc économiser et ensuite partir sur ces économies le reste de l'année. Il y a aussi les pertes de job étudiants. Faut savoir que on remarque beaucoup, notamment à travers notre épicerie sociale et solidaire, donc l'Agorae, où en fait donc on fait de l'aide alimentaire, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont notamment non boursiers et soit du coup qui s'en sortaient en travaillant ou qui ont leurs parents qui ne leur donnent plus d'argent parce que eux-mêmes ont des difficultés dans leur emploi. Et c'est vrai que c'est pour ça que je pense qu'il y a l'aspect financier. Ensuite, il y a l'aspect scolaire, c'est-à-dire que le plus gros problème de travailler à la maison, c'est en fait le décrochage, le fait de plus être dans l'ambiance, le fait d'avoir parfois des professeurs qui ont du mal à adapter en fait leurs cours au numérique. C'est pour ça que d'ailleurs les professeurs aussi ont tenu à manifester. Et ensuite, l'impact qui nous inquiète le plus, c'est l'impact psychologique. Et c'est celui qu'on ressent le plus et qui nous inquiète le plus parce que ça aura des conséquences ensuite sur le reste de leur vie. Et c'est celui qu'on a le plus de mal à lutter contre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas des... On peut aider à se faire se rencontrer, à faire de la culture, à faire de l'animation numérique, on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas des psychologues. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin d'aide psychologique.
Oui, puis en plus, que ce soit compliqué à traiter, entre guillemets, c'est peut-être aussi l'aspect le plus compliqué également à mesurer, peut-être quantitativement par rapport aux autres aspects financiers, etc.
Tout à fait. Et c'est vrai que là, donc il y a eu quelques enquêtes déjà qui ont été faites. Par exemple, au niveau de la FAGE qui a commandé qui a fait une enquête avec l'Ipsos. Et il y a eu des chiffres en fait du premier confinement. Mais là, après le deuxième confinement, on n'a toujours pas de chiffres et on les aura que après. Sauf que après, ce sera trop tard pour agir. C'est maintenant qu'il faut agir et c'est pas parce qu'on n'a pas de chiffres qu'il ne faut pas prendre ces problèmes-là en compte. Et moi, je pense à titre personnel, mais même on a pu en discuter au sein de la FEDB, que les chiffres sont très, très, très parlants et même d'autant plus choquants qu'après le premier confinement. Parce qu'il y aurait eu une année passée, je pense que ce soit au niveau du décrochage, au niveau des conséquences psychologiques, ça va être vraiment dramatique.
Ça, sur la différence entre le premier et le deuxième confinement, on en parlera un peu après. Moi, je voulais revenir sur vous, personnellement. Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'étudiante?
Alors, c'est vrai que, donc, de par mon poste à la FEDB, cette année, je suis en césure. Mais à la base, c'est vrai que je suis étudiante en master de droit. L'année dernière, j'ai pu passer mes partiels en distanciel. Clairement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. Je pense que je les ai pas aussi bien réussi que si j'avais pu faire en présentiel. Maintenant, cette année, certes, j'ai plus cours, mais par contre, je vois des choses. On me dit des choses qui, moi, me choquent, en fait. Parce que quand on est bénévole associatif, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes qui se mobilisent, et c'est bien. Et l'État veut nous donner des sous pour qu'on continue à les aider. Mais on reste des étudiants, on reste en difficulté. Il y a beaucoup d'associatifs et d'associatives qui étaient très mobilisés et qui, là, se concentrent sur leurs études parce qu'ils sentent qu'ils ont du mal à s'engager à côté. En tant que personne en césure, ça me permet de vraiment d'être dans le milieu de l'aide à l'étudiant. Et on voit, en fait, à travers des témoignages, à travers toutes les personnes qu'on peut rencontrer, moi, j'avoue que parfois c'est pas facile, parce que je n'ai pas de formation de psychologue, je n'ai pas de formation à savoir comment réagir face à certains propos d'étudiants, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un réel besoin au niveau de la santé mentale.
Et justement, pour faire la distinction entre le premier et le deuxième confinement, avec le couvre-feu, etc., est-ce que vous avez l'impression que la situation actuelle est pire encore, mentalement parlant, psychologiquement parlant, que lors du premier confinement, au début de la crise en mars dernier ?
Je pense que le fait que ce soit pire, c'est qu'au premier confinement, en fait, on voyait une fin. On pensait qu'il y aurait une fin. Et là, en fait, c'est le fait que ça dure. Qu'on ait toujours les informations au coup de goutte. Et je dis ça, mais je parle aussi des universités. Même les universités ont les informations au coup de goutte. Et qu'en fait, il n'y a plus une vision d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voyaient leurs études devant elles, qui voyaient leur stage, qui se disaient ensuite, après ce stage-là, bah, j'aurai l'expérience pour faire tel travail. Et qui maintenant se retrouvent avec un avenir complètement flou, avec des conditions d'études désastreuses. Et c'est pour ça que c'est pire aujourd'hui, en fait, c'est le fait que ça perdure dans le temps.
Et donc, pour revenir à la manifestation, c'est quoi les revendications, les objectifs que vous voulez atteindre à travers cette manifestation?
Les trois grands types de revendications, on va dire, c'est une aide financière. Peut-être un recalcul des bourses. C'est vrai qu'au sein du réseau de la FAGE, ça fait un moment qu'on milite notamment pour une linéarisation des bourses, c'est-à-dire en fait qu'au lieu que les bourses soient calculées par palier, et donc parfois d'avoir un niveau de bourse qui ne correspond pas forcément à la situation, en fait d'avoir un recalcul qui corresponde vraiment à la situation de l'étudiant ou l'étudiante, et évidemment avec une somme plus importante. Ensuite, il y a beaucoup de... avoir aussi plus de psychologues, et gratuits, pouvoir aller voir une psychologue ou un psychologue gratuitement, parce que actuellement, pour aller voir un psychologue gratuitement, il faut aller au service universitaire, service de santé universitaire, au SUMS, à l'UBO. Et là, actuellement, on est à 3 semaines d'attente pour avoir ce rendez-vous-là. Donc, je ne sais pas, que ce soit par un pass santé où, du coup, on paye, enfin, on rembourse aux étudiants, aux étudiantes le rendez-vous avec un ou une psychologue, ou avoir plus de psychologues à disposition dans les universités. Et aussi des mesures en matière d'études, c'est-à-dire la réouverture des universités à 50% des jauges. Donc nous, on estime qu'il y a quand même de la place dans les amphithéâtres. Il y a des adaptations qui sont possibles. Sauf que là, ce que nous dit l'État, c'est non, point. Alors que si on laissait plus d'autonomie aux universités, elles pourraient tout à fait adapter en fait la tenue des cours en fonction de la situation du territoire.
Et pour revenir aux étudiantes, tout à l'heure vous parliez de bourse, est-ce que vous avez l'impression que la détresse des étudiants touche tous les étudiants, c'est-à-dire des étudiants de tous les milieux sociaux? Et si c'est le cas, est-ce que tous les milieux sociaux étaient représentés à la manifestation de ce matin?
Alors ça, je peux pas parler au nom de tous et toutes les étudiants et étudiantes, parce que voilà, je les connais pas tous. Mais je pense que, en tout cas, il y en a une très grande majorité, que les dernières enquêtes nous montrent, qu'effectivement, il y a des... Mais par contre, c'est vrai... Il y a des étudiants et des étudiantes qui sont plus en difficulté que d'autres, qui ont des cas qui sont vraiment graves. Mais je pense que la particularité de la situation fait que ça touche quasiment toute la population étudiante.
Et justement, là vous parlez des cas graves, est-ce que vous auriez des exemples de situations? Bien sûr, sans dévoiler l'intimité d'étudiants ou d'étudiantes, mais pour que des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, qui ne côtoient pas d'étudiants, se rendent compte de la difficulté extrême dans laquelle certains étudiants peuvent arriver.
J'ai un exemple récent où, j'aime pas trop faire parce qu'effectivement il y a des cas qui sont très graves et j'ai peur que ça renvoie à des situations pour certaines personnes qui peuvent nous écouter, mais par exemple, je sais qu'on a été contacté par le Secours Populaire qui nous ont dit, on a un étudiant qui est venu nous voir, qui n'avait pas mangé depuis quasiment une semaine. Est-ce que avec votre épicerie, vous ne pouvez pas le prendre en charge pour et l'aider en fait, donc déjà à s'alimenter, mais en plus à trouver des aides. Nous on fait beaucoup d'accompagnement vers les assistantes sociales du CLOUS. Et par rapport à ça, enfin je préfère pas trop donner de cas parce que ça je suis désolée, mais ça me gêne un peu parce que j'ai peur que ça renvoie à certaines images et même moi personnellement ça c'est le cas. Mais en tout cas faut pas hésiter si vous ne vous sentez pas bien à aller voir les assistantes sociales du CLOUS ou à appeler le CLOUS, enfin vraiment aller voir des assistantes sociales, ouvrir la parole. Faut en parler, c'est pas grave, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, et voilà, ne pas hésiter.
Ouais, n'hésitez pas. Et enfin, dernière question, c'est quoi le support de vos professeurs par rapport à cette situation-là, que ce soit pendant la manifestation de ce matin, mais de manière générale?
C'est vrai qu'on a remarqué beaucoup de soutien d'enseignants, notamment parce que eux aussi sont en partie touchés par ces problèmes-là, parce que donc on leur demande du jour au lendemain, enfin un peu d'innover dans les cours, ce qui n'est pas toujours possible. On leur demande de tenir au courant les étudiants, les étudiantes, d'essayer de voir s'ils vont bien, mais c'est pas toujours facile, j'imagine. Et c'est vrai qu'on a un fort soutien des professeurs qui sont prêts, je pense, à faire ces cours-là pour la plupart en présentiel ou du moins en partie en présentiel.
Et à la manifestation, ils étaient nombreux ?
Oui, il y avait un certain nombre de syndicats enseignants. Je ne vais pas les citer. Enfin, je suis désolée, je ne les ai pas tous en tête.
Ouais, donc quand même bien présents et là pour vous soutenir.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important de montrer que, en fait, on est tous un peu dans le même bateau. Et bien qu'effectivement, je pense que la population étudiante qui est plus importante et qui a des conséquences un peu dramatiques, forcément, a été mise en avant. Mais effectivement, il y a aussi le corps professoral. Il faut savoir aussi que, il me semble que lorsqu'on était sur le parvis de Fac de Lettres, la présidence de l'université de l'UBO a montré son soutien aussi en venant en fait sur place, entouré des étudiants et des étudiantes de l'UBO, pour montrer aussi son soutien à cette mobilisation, parce que eux-mêmes en fait sont soumis en fait aux directives du gouvernement.
Merci beaucoup Esther Eljida d'avoir accepté cette interview. Et avant de continuer, on fait une pause musicale en écoutant Émergence de Roman Rancé.
Devient papillon. Mmh.
sur le 101.1 FM dans l'émission « C'est vous qui me dites ». Depuis quelques semaines, fleurissent des hashtags #MeTooInceste partout sur la toile. Des hashtags permettant à des milliers d'hommes et de femmes de dénoncer les violences sexuelles qu'ils ont subies étant enfants. Des violences sexuelles, abus, viols, perpétrés par des membres de la famille et bien souvent par des hommes de la famille, oncles, pères, frères, grands frères. Donc, des crimes commis à 96% par des hommes, des crimes commis dans l'intimité et qui très souvent ne sont pas entendus, car inimaginables, impensables, quand les victimes tentent de parler. Une libération de la parole, donc, et de l'écoute, surtout. Mais ce sont avant tout des adultes, anciennes victimes, qui témoignent. Qu'en est-il des victimes actuelles, des enfants qui, en ce moment même, sont violés ou abusés sous leur toit? Pour tenter de libérer la parole chez les enfants victimes aujourd'hui, l'association Les Papillons a imaginé un système de boîte aux lettres, posté dans les écoles notamment, qui permettrait aux enfants de s'exprimer sur les violences qu'ils vivent au quotidien. Pour en parler, on accueille Maud Soula, référente de l'association pour le Finistère. Bonjour Maud.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pourriez présenter l'association Les Papillons en quelques mots?
Oui, alors l'association a été créée en 2019 par Laurent Boyer, qui est capitaine de police et qui a été victime d'inceste pendant son enfance. Et elle vise, comme vous l'avez dit en introduction, à déployer des boîtes aux lettres dans les écoles, les clubs de sport, les collèges, les lycées, et pourquoi pas les universités, pour permettre aux enfants et aux adolescents victimes de maltraitance de pouvoir libérer leur parole.
Et si vous aviez à résumer ça en quelques mots, les objectifs vraiment phares, est-ce que c'est la protection, est-ce que c'est la dénonciation?
C'est la protection de l'enfance, c'est la libération de la parole de l'enfant par l'écrit.
Donc l'association existe depuis 2019, comme vous le disiez à l'instant. Est-ce que depuis le début de sa création, vous avez pu sauver des enfants, que ce soit des enfants victimes d'inceste sur le moment, donc en dénonçant, en protégeant l'enfant, ou alors des victimes plus anciennes, en les accompagnant mentalement par exemple?
Alors oui, on a déployé aujourd'hui une quarantaine de boîtes aux lettres en France. On a recueilli plus d'une soixantaine de mots. On a pu à chaque fois, avec l'aide soit des personnels éducatifs, soit de la CRIP, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes, essayer d'apporter une solution aux enfants. Alors ça va être des enfants ou des adolescents victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles, d'inceste, mais également de harcèlement.
Et justement, pour revenir sur ces boîtes aux lettres, elle vient d'où cette idée?
Alors cette idée vient d'une de nos bénévoles, en fait, puisque au départ, quand on s'est constitué, on cherchait un outil de libération de la parole, et on sait que les victimes, quand elles sont victimes de leur bourreau, souvent on leur interdit de parler, mais les enfants vont souvent soit écrire, soit faire des dessins pour essayer d'alerter les adultes et d'appeler à l'aide. Et on s'est dit, pourquoi pas une boîte aux lettres dans les écoles et les structures qui recueillent la parole des enfants.
C'est justement la question que j'allais vous poser, parce que donc je l'expliquais très rapidement dans l'introduction, le fonctionnement un peu des boîtes aux lettres. Mais j'imagine qu'elles sont installées voilà, dans différents endroits. Vous parlez des écoles notamment, mais pas que. Et je me demandais pour l'instant, dans les différentes villes où ça a été mis en place, dans quel lieu précisément elles ont été installées, qu'est-ce que les enfants mettent à l'intérieur en majorité? Est-ce que c'est plutôt des dessins, des textes? Qui s'occupe de récupérer le courrier? Enfin voilà, comment ça marche concrètement?
Alors on a des bénévoles qui font le recueil des courriers, qui sont des bénévoles qui doivent nous fournir un extrait de casier judiciaire pour pouvoir adhérer à l'association. Une fois que ces courriers vont être relevés, on les envoie à une cellule au niveau national, composée donc de Laurent Boyer, qui est policier, et de professionnels qui l'accompagnent, des psychologues cliniciens ou des éducateurs qui travaillent auprès d'enfants, et qui vont pouvoir analyser les courriers et voir quelles solutions on peut y apporter. Mais les solutions, en fait, elles sont apportées par les éducateurs ou par le personnel éducatif ou par la justice. C'est pas l'association qui va traiter, en fait, la problématique de l'enfant. Nous, on est finalement que des facteurs, que des relais de la parole de l'enfant. Et vous parliez des lieux. Là, aujourd'hui, dans le Finistère, par exemple, on a installé des boîtes aux lettres dans les clubs sportifs. On va en installer une dans un collège prochainement. Et on en a également deux dans les écoles douanes. Mais on a une grosse problématique qui est que l'éducation nationale, dans certaines académies, nous bloque. Et pour vous donner un exemple, dans le territoire de Belfort, l'académie a imposé le retrait d'une boîte aux lettres qui avait été installée dans un collège public. Donc on a aujourd'hui une problématique avec l'éducation nationale qui, dans certaines académies, ne veut pas que nous installions nos boîtes aux lettres.
Et vous avez une idée du pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui est très utile, qui est nécessaire. Vous avez une idée, oui, du pourquoi les académies refusent?
Alors, les raisons qui sont invoquées sont diverses. Hein. La première d'entre elles est que l'éducation nationale dispose de tous les dispositifs adéquats et qu'en gros, ils n'ont pas besoin de nous. La réalité nous montre le contraire, puisque dans l'exemple de la boîte aux lettres de Belfort dont je vous parle, elle avait été installée il y a 2 semaines, il y avait déjà 15 enfants qui avaient témoigné. Donc on voit que ça fonctionne. En fait, on propose un outil complémentaire à ce qui existe déjà. On propose un outil complémentaire au 119, qui est le numéro d'appel pour les enfants victimes de violences. On propose un outil qui est complémentaire à ce que peuvent faire les médecins scolaires, les infirmières, etc. Et nous, en fait, d'expérience, à chaque endroit où on a posé les boîtes aux lettres, on a eu des mots et on a pu trouver des solutions en partenariat avec le personnel éducatif. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, je ne vous cache pas notre incompréhension, voire notre colère face à ces blocages administratifs, puisque là, on parle simplement d'administration, en fait.
Et pour revenir sur l'aspect plus concret, on va dire, quand il y a une boîte aux lettres qui est installée, par exemple, dans une école, oui. Parce que... Bon, l'école, c'est quand même assez important. On sait aujourd'hui que c'est entre 2 à 3 enfants par classe de CM2 qui sont victimes d'inceste, donc ça fait beaucoup. Est-ce qu'au moment où vous installez la boîte aux lettres, il y a un atelier de sensibilisation auprès des enfants qui est fait?
Oui, bien sûr. On a un moment où on va présenter le dispositif aux enfants. Alors, on a une petite vidéo de présentation. Cette présentation se fait en présence de leurs enseignants et on leur présente le dispositif. Et on leur remet également un petit prospectus qui leur explique le dispositif de la boîte aux lettres. Et en général, les enfants s'emparent très 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 vite de ce dispositif.
Et je me demandais, parce que souvent, une des peurs qu'on peut retrouver chez les enfants qui sont victimes d'inceste et de violences intrafamiliales de manière plus générale, on va dire, c'est la peur notamment de détruire la famille du fait d'avoir parlé. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez justement au moment de l'installation de ces boîtes aux lettres, pendant le moment de sensibilisation?
Alors, on leur explique que le plus important, c'est qu'ils soient aidés, eux, et qu'en l'occurrence, ce sont les personnes qui leur font du mal, qui détruisent la famille actuellement, et que eux, ils ont besoin d'aide et qu'il faut qu'on les aide, en fait. C'est effectivement quelque chose qui est très compliqué pour les victimes de violences intrafamiliales, que ce soit l'inceste ou des violences psychologiques ou physiques, cette espèce de culpabilité et de réflexe de protection. Mais ça passe par le dialogue et ça passe aussi par la formation et l'éducation à la parentalité. Il faut que les parents puissent parler à leurs enfants et que cessent en fait finalement tous ces tabous autour du consentement, autour des violences, autour de l'inceste. Il faut que les familles aussi puissent communiquer. Et on se rend compte que quand les enfants rentrent à la maison avec ce prospectus, on a des témoignages hein, de gens qui nous disent que ça a permis finalement d'aborder ces sujets-là en famille et que ça permet de libérer le dialogue en fait au sein de la cellule familiale.
Et justement, là, vous parlez de libérer le dialogue, parce que une des choses qui est le plus lourd dans le mécanisme de l'inceste, c'est le silence qui l'accompagne. Et je me demandais, qu'est-ce qui vous permet, enfin, qu'est-ce aujourd'hui, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de recul, d'après vous, qu'est-ce qui permet que les boîtes aux lettres fonctionnent, c'est-à-dire que les enfants prennent l'initiative de parler, alors que jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas forcément fait?
Alors déjà, ils ne parlent pas, ils écrivent. Alors ça peut paraître anecdotique comme différence, mais elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une victime aura du mal à s'entendre dire les choses dont elle est victime, alors que l'écrire, le poser sur un papier, c'est parfois plus facile. Et puis, il y a cette neutralité aussi de la boîte aux lettres. Les personnes qui vont relever des courriers, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'enfant. qui ne vont pas le juger, qui ne vont pas se retrouver en face de lui. C'est très difficile pour un enfant de se retrouver face à un adulte et de dire ce dont il est victime. Là, finalement, j'emploie souvent cette métaphore, hein, mais c'est un peu comme le système de la bouteille à la mer. Les enfants mettent un mot, mais ils savent cette fois-ci que quelqu'un va le trouver, et quelqu'un qui est neutre, qui est objectif, et qui n'est pas là pour le juger, et surtout qui va le croire par principe.
Et je me demandais, pour que les personnes qui nous écoutent se rendent compte, vous sauriez dire ce que ça change dans une vie de témoigner de ces violences tout de suite, donc c'est-à-dire au moment où elles sont encore effectuées, si je puis dire, ce que ça apporte comparé au fait d'en parler plus tard, parfois de plusieurs décennies après?
Je peux d'autant plus vous le dire que j'ai moi-même été victime et que j'ai eu une amnésie traumatique de plusieurs années. Qui m'ont empêché de parler tout de suite. Tout simplement, déjà, ça permet de faire cesser les violences, parce qu'on sait que dans les cas d'inceste ou de violences sexuelles sur les enfants, c'est des violences qui se répètent pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Donc le fait d'en parler tout de suite, ça permet déjà de faire cesser ces violences. Et ensuite, ça permet de reconstruire plus rapidement l'enfant et de faire en sorte qu'il garde un tout petit peu moins de séquelles, parce que des séquelles, il en gardera, faut pas se leurrer. Mais si plus il est pris en charge tôt, plus on va pouvoir l'aider à se reconstruire, en fait. Et plus dans son rapport aux autres et dans son rapport aux adultes, il reconstruira une forme de confiance. Un enfant qui est laissé dans ce silence et dans cette emprise pendant des années devient un adulte bancal, en fait. Et il faut que ces enfants puissent être pris en charge tout de suite.
Et pour revenir sur la question du Finistère, est-ce que depuis... Parce que là, il y a quelques boîtes à Quimper, il me semble.
C'est ça.
Notamment. Est-ce que depuis le début où ces boîtes ont été installées, vous avez eu au moins un cas d'enfant qui a décrit des violences qu'il pouvait subir, et les violences ont pu être stoppées d'une manière ou d'une autre?
Alors, je suis tenue par une obligation de confidentialité, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que contenait ce mot, mais oui, on a eu un cas d'enfant qu'on a pu aider à faire face à ces violences et à les faire cesser, oui. Mais il y a, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants du coup qui vous écoutent, il n'y a pas que les boîtes aux lettres physiques. On sait aussi que les adolescents et les plus âgés auront peut-être du mal à être sur la boîte aux lettres physique et pour beaucoup sont équipés de téléphones portables ou d'un accès à Internet. On a une boîte aux lettres virtuelle aussi sur le site de l'association personnes peuvent témoigner.
Oui, c'était justement ma question parce que forcément les boîtes aux lettres ne sont pas forcément installées partout et en plus avec le reconfinement possible qui nous attend et potentiellement total, donc avec une impossibilité d'aller à l'école, c'est sûr que c'est compliqué. Et donc du coup, comme vous le disiez à l'instant, il y a une boîte à lettres virtuelle. Comment ça marche concrètement?
Alors en fait, c'est sur le site de l'association, donc associationlespapillons.org. Vous allez sur le site et tout en haut, il y a un petit visuel de boîte aux lettres. Il suffit de cliquer dessus et vous arrivez en fait sur un formulaire où vous pouvez témoigner des violences ou des maltraitances ou du harcèlement dont vous faites l'objet ou dont vous avez été témoin, puisqu'on a aussi des cas de personnes qui, entre le harceleur, et le harcelé, mais qui vont pouvoir témoigner finalement de la violence dont leur camarade est victime. Et donc en allant sur cette virtuelle, le courrier que vous allez envoyer, le message que vous allez envoyer va arriver directement à notre cellule nationale et sera traité. Et c'est d'ailleurs un dispositif qui a, vous parliez du confinement, qui a énormément fonctionné pendant le premier confinement au mois de mars.
Et pour revenir à Brest, de manière plus locale, aujourd'hui elles ne sont pas présentes encore les boîtes aux lettres.
Non.
Pourquoi? Et est-ce que, enfin, de quoi vous auriez besoin pour les installer? Est-ce que là encore c'est une question d'administration ou c'est...
Ah, pas du tout. Alors, on a eu une première discussion avec la mairie de Brest fin décembre. Donc on a fait un premier rendez-vous avec l'adjointe à l'éducation. On a été extrêmement bien accueillis. Il y a une vraie volonté de nous aider. Après, c'est aussi une question de trouver des bénévoles pour faire les relevés. Donc là, aujourd'hui, l'association recherche des bénévoles sur Brest pour pouvoir nous aider à faire les relevés de courriers dans les futures boîtes aux lettres qui seront installées. C'est un dispositif qui prend du temps à installer parce que il faut justement présenter le dispositif aux équipes pédagogiques, présenter aux élèves et puis trouver des bénévoles qui viendront faire les relèves deux fois par semaine. Donc on a bon espoir que dans les mois qui viennent, des boîtes aux lettres soient installées à Brest dans différents endroits. Hein. Ça peut être les médiathèques, ça peut être les piscines, ça peut être les clubs sportifs, ça peut être l'université également. Donc on est en train de travailler avec la mairie de Brest sur ce sujet. On a commencé en tout cas.
Oui, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés pour être bénévoles, j'imagine qu'il faut aller sur votre site.
Voilà, sur le site. Ou sinon, m'envoyer un mail. J'ai une adresse mail, associationlespapillons29@gmail.com.
Et enfin, dernière question, même s'il y a ce système boîte aux lettres qui commence à mettre en place à différents endroits, certains enfants ne vont quand même peut-être pas oser parler, enfin en tout cas écrire ou dessiner. Et du coup, je me demandais comment on fait pour repérer un enfant qui subit des violences. Est-ce qu'il y a des signes ?
Il y a effectivement des signes. Alors, un enfant qui travaille très bien à l'école et qui se met à décrocher au niveau scolaire, qui commence à avoir des problématiques d'appétit, qui va s'isoler, va être un enfant qui peut avoir un problème. Mais alors ça passe par une formation beaucoup plus importante des personnels éducatifs qui sont autour de l'enfant. Il y a certains établissements où il y a des médecins scolaires, des infirmières scolaires, mais c'est pas le cas partout. Et il est important de prendre ça en considération. Maintenant, on a des victimes d'inceste qui vont passer totalement en dehors des écrans radars parce que c'est des enfants qui sont très sages, qui sont très calmes, qui travaillent bien, dont on ne soupçonnerait absolument pas ce qui se passe. Et c'est pour ça que parmi les mesures qui ont été annoncées l'autre jour par le président, l'idée de faire des rendez-vous de dépistage à l'école, en primaire et au collège, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait perpétuer ces rendez-vous au lycée et à l'université.
Et là, vous parlez des signes plutôt à l'école en expliquant que parfois ça pouvait être un enfant qui décroche, mais pour des parents, parce qu'on pense, dans les incesteurs potentiels, il y a le père, mais il n'y a pas que, il peut y avoir d'autres membres de la famille. Et c'est que des fois les parents se posent la question de comment repérer, comment on aurait pu savoir. Est-ce qu'il y a d'autres signes, autres le décrochage scolaire ?
Ça dépend vraiment de l'enfant. Souvent, l'enfant va envoyer des signaux à ses parents, va essayer de les alerter, mais ne sait pas trop comment s'y prendre. Et malheureusement, dans la plupart des cas, les parents ne repèrent pas ces signaux-là et ne les voient pas. Donc là encore, ça passe par une formation à la parentalité et par un accompagnement, en fait, de ses parents à repérer ces signaux-là. Donc il y a tout un travail finalement d'éducation de la société sur ces sujets, de briser ce tabou, parce qu'un enfant qui est victime de violences sexuelles, d'inceste, il va envoyer des signaux. Mais ils sont parfois extrêmement difficiles en fait à percevoir. Dans mon cas par exemple, moi j'étais malade tout le temps quand j'étais petite. C'était après coup, j'ai découvert que c'était ma manière à moi d'alerter en fait.
Oui, donc des signes qui sont pas forcément toujours clairs ou toujours évidents à voir, mais
c'est ça. Et puis il faut quand même se rendre compte que c'est difficile pour une famille de se rendre compte que ce genre de choses existent au sein de la famille. Quand on a un esprit constitué de manière saine, si je puis dire. C'est difficile quand on voit le nombre de personnes qui disent être victimes d'inceste et qu'on se rend compte qu'un Français sur 10 aujourd'hui aurait été victime d'inceste, ça donne le tournis à la plupart des gens et c'est totalement logique. C'est donc très difficile. C'est pas qu'une question de déni, c'est une question de construction en fait, intellectuelle et éducative, et c'est très difficile de se dire que ça peut toucher son propre enfant. Mais tout ça, ça passe par le dialogue aussi. Ça passe par le fait de dire à son enfant que son corps lui appartient, qu'un adulte ou un enfant plus grand n'a pas le droit de toucher certaines parties de son corps sans voilà, qu'il n'a pas le droit de lui demander aussi de toucher certaines parties du corps. Et tout ça, ça passe finalement par un dialogue autour de ces sujets au sein de la famille. Et plus on aidera les enfants à se rendre compte que l'intimité est importante, que le corps c'est important, et moins on aura ce genre de situation également.
Oui, d'où l'importance d'en parler, et d'en parler notamment à la radio, oui. Pour que tout le monde se rende compte. Merci beaucoup Maud.
Ben, merci à vous.
C'était donc Maud Soula de l'association Les Papillons pour discuter avec nous de cette initiative des boîtes aux lettres pour dénoncer les violences subies par les enfants. Je rappelle que si vous êtes victime, vous pouvez donc évidemment écrire dans la boîte aux lettres virtuelle sur le site de l'association Les Papillons ou la boîte aux lettres physique s'il y en a une près de chez vous, mais aussi appeler le 119, donc le numéro pour l'enfance en danger, évidemment gratuit et disponible 24 heures sur 24. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique « L'économie autrement ». Des reportages autour de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, une économie qui représente près de 15% des emplois en Bretagne et que l'on vous fait découvrir chaque jour à travers un lieu, une initiative, une entreprise qui tente d'aborder autrement la question économique. Et aujourd'hui, nous sommes à la maison des associations à Rennes, où la pépinière des associations héberge Estime Numérique, une association de promotion de la mixité dans le secteur du numérique, créée en 2017, et qui a dressé certains constats et identifié certains freins qui expliquent la faible présence des femmes dans le secteur du numérique.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Salut, tu vas bien?
Ça va,
tu m'avais pas reconnu.
Désolé,
mais
ça va.
Oui. Donc là, tu as Make Me. Et pour information, tu as une super canon à fusée.
Exactement.
Quels sont les constats qui ont amené à la création d'Estime Numérique?
C'est assez simple. Aujourd'hui, la filière du numérique est une filière en plein essor. En termes de recrutement, c'est assez impressionnant. Mélissa Cotin, directrice coordinatrice générale de l'association Estime Numérique. Et pourtant, on a quand même une vraie pénurie de talents. Si je reprends en région Bretagne, selon l'Observatoire régional des compétences du numérique, 3700 postes étaient non pourvus en 2019, faute de candidats et de candidates. Et puis d'un autre côté, nous avons aussi une filière qui est peu féminisée. On a une filière qui compte à peu près 30% de femmes dans la filière du numérique, contre 48% dans d'autres secteurs d'activité, et qui tend aussi à être de moins en moins féminine. Il y a une autre étude qui est sortie peu récemment. On a moins 6% de femmes diplômées de la tech entre 2013 et 2018. Donc c'est aussi pour nous une volonté d'amener un peu plus de femmes dans le numérique. Pour aussi la simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on le voit très bien, on a besoin de diversité dans les profils pour avoir des outils qui soient aussi, qui répondent à des besoins diversifiés.
D'où vient le problème pour Estime Numérique du côté des entreprises ou du côté des femmes en question?
Un peu des deux. Il n'y a pas de à qui la faute. Je pense que c'est surtout une problématique de société, d'image. Aujourd'hui, on a tous tendance à penser que le numérique c'est réservé aux mecs aux cheveux gras qui mangent des chips toute la journée. Alors que non, le numérique a énormément évolué. Il y a des stéréotypes qui restent très marqués sur l'image du geek, sur le fait que le numérique c'est un ordinateur. Aujourd'hui, il y a une telle diversité de métiers qu'on n'est pas forcément obligé de toucher un ordinateur. Des croyances aussi invalidantes sur les femmes. On n'ose pas, on veut pas y aller, on peut pas y aller. Je ne peux pas avoir un métier à responsabilité. Et puis d'un autre côté aussi, les entreprises qui ont du mal à s'emparer de ces sujets d'égalité, de conditions de la femme. Je prends l'exemple, je passe beaucoup de temps aujourd'hui à sensibiliser les entreprises sur le fait que d'organiser un job dating le mercredi après-midi, ça peut être un frein pour des femmes qui souhaitent peut-être intégrer le numérique. Donc c'est pas une faute des femmes ou une faute des entreprises, c'est la faute un peu partagée. Et l'idée c'est de reconnecter ces demandes-là pour amener un peu plus de femmes dans le numérique. Il y a aussi la question de l'éducation. Aujourd'hui, quand un conseiller d'orientation vous dit n'allez pas dans le numérique, c'est une filière réservée pour les hommes, bah forcément ça a aussi un impact. Donc il y a une vraie fracture sur le manque de femmes à partir du lycée et des études par la suite. Et on oriente surtout les femmes sur des métiers plus administration, communication, RH. Donc non, c'est vraiment pour moi une question d'autocensure et de croyance qu'il faut aussi réussir à dépasser. Et c'est un peu notre message aussi, d'oser.
Ce reportage a été réalisé par...
Like in white diamonds and a bunch of clients. Run when you hit it. Radio U sur le net, radio-u.org.